Radio Campus.
Bonsoir les amis du Saint-Disque.
Bonsoir. Ah, enfin, il y a du son.
Alors, qu'as-tu passé, DJ Wallace ?
En fin de compte, c'est Marco qui a commencé. Enfin, Marco qui a commencé un peu dans le vide, puisque ce soir, nous avons eu un petit problème technique au démarrage pour la saison 2 de l'émission du Saint-Disque hebdomadaire. Voilà, comme l'année dernière, on se retrouve sur le créneau 18h-19h. Et quand vous n'êtes pas là, les amis, voilà, Dominique et Karl, on pousse le pied jusqu'à 20h. Donc, on a joué plutôt funky, house, électro-disco. Et puis là, on finit par un vieux classique sorti sur le label FCOM il y a une vingtaine d'années, on va dire.
5 fois, tu l'as passé.
5 fois en une année ? Bon, je leur passerai peut-être une 6e année pour la saison 2. Ah, parce que tu notes tout, c'est toi qui m'écoutes.
Attends, tu crois quoi, quoi ?
Ah, c'est lui, c'est Karl, le fidèle auditeur qui note tout ce que je passe.
Je travaille pour l'Assassin.
Voilà, donc je m'adresserai à toi quand je saurai ce que j'ai passé en février 2023.
J'attends de vos nouvelles. Hein.
Voilà, donc saison 2 qui reprend donc tous les lundis avec différents DJ, différents styles de musique. Voilà, 18h-19h et la semaine prochaine, ce sera 18h-20h puisque ils nous laissaient le créneau.
C'est une fois par mois l'émission du Pictionnaire.
Voilà. Voilà, voilà. Eh ben, bonne émission à vous, les gars. Et puis,
Je crois qu'on va commencer. Il est l'heure.
Voilà, il est l'heure.
Merci à tous les deux.
Ah bah non.
Que se passe-t-il ici au juste ? Posez des questions à des personnes qui écrivent des livres.
Bonsoir Karl, nous entamons notre 19e saison et en septembre, c'est cette rentrée littéraire, bien entendu, qui soit nous assomme, soit nous réjouit. Ce qui nous a réjouis, c'est ce nouveau livre Samsara de Patrick Deville et nous allons commencer par une interview avec lui. Ça sera la 4e pour cette émission, c'est un fidèle. Nous continuerons en deuxième partie avec une jeune doctorante, Jeannette Lin, qui avait déjà été interviewée en compagnie de Patrice Maniglier pour ce très très bel article qu'ils avaient écrit ensemble sur Dipesh Chakrabarti. Avec elle, nous parlerons principalement de sa thèse et sa thèse porte sur le concept philosophique de zone. Voici le programme de cette émission. Vous dire que il y a 6 mois, on avait interviewé Laurent Testo pour Vortex, faire face à l'Anthropocène. Si vous voulez le rencontrer en vrai, ça sera jeudi 28 septembre de 19h à 20h30 à la médiathèque Anna-Marie de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Voilà, c'est moi qui l'invite, je me fais mon auto-promotion. Mais c'est un fidèle de l'émission, Laurent Testo. Nous parlerons du concept d'Anthropocène et ça sera avec lui en direct. Karl, que vas-tu nous passer ?
Ah ouais, t'insultes même pas un auteur cette année pour la rentrée, quoi ?
Eh ben non, parce que j'ai plutôt aimé le Amélie Nothomb est très bon, c'est un très bon conte, Amélie Nothomb. Et alors, en fait, quand tu lis son livre, il y a juste, à un moment donné, une hyperbole, juste sur une page, où tu comprends pas forcément ce qui s'est passé. C'est ma compagne qui me dit, mais qu'est-ce que t'as compris à cette page-là ? Et en fait, elle raconte le viol qu'elle a subi à l'âge de 12 ans. Sur une plage au Bangladesh, parce que elle voyageait beaucoup avec son papa qui était diplomate belge. Et en fait, ça fait la une de tous les titres actuels, parce qu'elle a été interviewée par Laura Salamé, Léa Salamé, sur France Inter, et Salamé a vraiment insisté sur cet épisode-là, en fait, et Amélie Nothomb, en le racontant, était très émue, larmoyante, et on le comprend, c'est quelque chose qui l'a traumatisée, mais son livre peut se lire sans du tout cette question du viol, parce que c'est un livre, en fait, sur sa relation avec les oiseaux, et après, dans une deuxième partie, sur sa relation avec son père mort, à qui elle parle encore, et son père lui parle encore. Et donc, j'ai trouvé que c'était un livre très, très proche des théories de Vinciane Després, en fait. J'avais presque envie de lui poser des questions, mais en fait, la question du viol, là, prend toute son ampleur. Et du coup, c'est plus possible de questionner Amélie Nothomb sur ce livre-là, en parlant juste d'oiseaux et de son papa mort. Voilà, mais c'est un très beau conte. Donc, non. Et cette rentrée, c'est vraiment décentré, vraiment.
seulement de questions humaines seulement. J'ai l'impression que il y a au moins une dizaine de livres, en tout cas dont j'ai parcouru, voire certains lus, qui sont très très en phase avec les nouvelles théories de sciences humaines pour cet anthropocène, justement cette catastrophe climatique et écologique, et que les romanciers, les romancières vraiment se sont véritablement là pleinement emparés de ce sujet-là en écrivant soit des dystopies, soit des choses un peu plus catastrophistes, soit des choses un peu plus contées. Mais il y a de ça, et je trouve que Amélie Nothomb accompagne vraiment ce mouvement en s'intéressant vraiment aux oiseaux et après à un défunt qui lui parle. Je trouve que c'est peut-être elle finalement la grande conteuse de cette rentrée littéraire qui a tout compris à ce que ça peut être comme effet l'anthropocène. Voilà, j'ai déjà beaucoup trop parler, Karl. Parle-nous de la musique.
C'est toujours intéressant. Eh ben, on va
même s'il rabâche toujours les mêmes choses, hein ?
Non. Par une mise en bouche pour cette rentrée, alors est-ce que c'est de la musique ? Je ne sais pas. En tout cas, Antoine Mermet a fait un album autour de la bouche amplifiée. Donc, il a utilisé sa bouche et des micros pour faire du son, donc hein, de la musique. Ça, après, vous verrez chez vous. Hein, vous déciderez si c'en est ou pas. Alors le titre, c'est des signes, donc voilà, je ne vais pas avoir beaucoup de facilité à vous donner le titre. En tout cas, on va commencer par Antoine Mermet dans l'émission du
Fictionnaire. Et si vous voulez écouter la suite de l'interview avec Patrick Deville, dès ce soir sur www.émissiondufictionnaire.com, vous avez l'intégralité de cette interview de 40 minutes. Avant d'écouter Jeannette Lin, doctorante, pour nous parler de sa thèse philosophique sur le concept de zone, nous allons passer un morceau de musique.
Cherchez la contrepréterie, là, par, ils ont envahi l'Inde par le Bengale, mais en fait, non, il n'y a rien.
Ou alors, faut, c'est assez technique, il faut être quand même assez pointu en sciences du langage, peut-être. Ah. Faudra, tu sais qu'il y en a un qui est très, très fort là-dessus, notre scientifique Étienne Klein. Dans son émission, il fait beaucoup de contrepréterie comme ça, et d'anagramme, il est très, très fort. Il en fait un par émission à chaque fois. Je trouve ça assez stupéfiant. Je me demande comment il trouve.
Oui, il y a des livres hein, aussi. Et, parfois, on va puiser de l'inspiration ailleurs. Mais allez, on passe maintenant à de la musique, je crois qu'on peut le dire.
Parce que c'était assez étonnant, ton espèce de bruitiste, en fait, avec la bouche, il faisait des choses particulièrement étonnantes.
Oui, après, voilà, il y a aussi des beatboxers qui font des choses dingues. La particularité de ces pièces sous la forme d'un album, c'est de faire de l'expérimentation, effectivement, de rechercher du son. Et pas forcément d'imiter une bouilloire, même si ça ressemblait beaucoup, en fait. Passons. Il y a d'ailleurs une prestation de beatbox à l'Astrolabe là, pour la rentrée. Hein. Regardez la prog, elle est tombée, il n'y a pas que pop-up. Même si ça arrive très vite, on va écouter maintenant un extrait d'un album de 700 Bliss, un duo de Philadelphie, qui propose une relecture du, ouais, on va dire R&B, d'ambiance un petit peu industrielle, de pop, de rock peut-être aussi un peu parfois. C'est très très spécial, c'est sur le label Hyperdub et on va écouter ça.
C'est sur l'émission du Fictionnaire à venir juste après. Jeanne Etelin, nous parlerons philosophie. Ah ouais, il y a un peu de tech aussi. Tu aimes la tech? Je danse. Oui. Allez, danse.
Dominique, de me recevoir dans cette émission. J'en suis vraiment extrêmement honorée et ravie. D'autant plus de parler donc d'un sujet qui me tient à cœur depuis maintenant de très nombreuses années, puisque ce travail de thèse, c'est un travail que j'ai commencé en réalité quand j'étais déjà étudiante en master. Et donc pour revenir à ta question sur ma rencontre avec la zone, disons que c'est d'abord une rencontre avec un film, qui est donc le film Stalker d'André Tarkovsky, film iconique, emblématique et absolument central dans l'histoire du cinéma. Et donc de la rencontre avec cette figure de la zone dans ce film. Et une question apparemment toute bête, une question peut-être même simpliste de savoir mais pourquoi donc cet espace dans ce film qui... s'appelle la zone, un espace donc mystérieux qui contrevient aux lois physiques et qui est d'un point de vue narratif le lieu où peuvent s'exaucer les souhaits, y compris les plus secrets de ces visiteurs et de ces visiteuses. Et donc cette question de pourquoi cet espace s'appelle-t-il la zone se posait à moi parce que, d'une part, j'avais l'impression que le terme de zone était un terme qui revenait dans notre quotidien et qu'il proliférait de plus en plus avec, d'une part, la multiplication de zones géographiques, urbaines, politiques, économiques... et aussi, mais que au-delà de simplement d'une multiplication empirique de zones dans notre au quotidien, il y avait aussi une multiplication sémantique du terme qu'on parlait, que ce soit dans les sciences entre guillemets dures de l'émergence de concepts de zone humide, zone écologique, de zone critique dans les sciences du système Terre, mais aussi dans le domaine des sciences humaines avec par exemple la notion de citoyen de seconde zone, avec l'idée de zone de contact, de zone frontière dans les études postcoloniales par exemple, et puis aussi dans les humanités littéraires. Donc j'ai parlé du concept de zone de contact dans les études postcoloniales, mais également dans la création artistique contemporaine. On pense évidemment au poème « Zone » d'Apollinaire qui marque l'entrée dans la modernité littéraire jusqu'aux succès les plus récents d'Alain Damasio avec « La zone du dehors »,« Les furtifs ». Et je pourrais même mentionner qu'il y a de nombreuses maisons d'édition qui portent le nom de « Zone ». Et donc, il y avait cette inflation comme ça de ce terme de zone qui aussi est très présent dans notre d'un point de vue politique aujourd'hui, qui résonne en fait dans notre imaginaire politique avec évidemment les zones à défendre et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais également avec l'émergence de zones d'autonomie comme le Chiapas ou comme au Mexique ou le Rojava en Syrie. Et donc une question pour moi se posait d'autant plus avec l'idée que la zone, voilà, par sa prolifération, était quand même, pouvait être abordée comme un symptôme de notre perception, conception, de notre rapport à l'espace dans notre expérience quotidienne, dans notre moment présent, et que ce terme donc, s'inscrivait au cœur donc, de notre expérience contemporaine, et qu'en même temps, personne vraiment ne savait dire c'est quoi une zone. Pourquoi on utilise le terme zone et pas le terme de territoire ? Pourquoi pas on utilise le terme de lieu, de région, qui sont en fait des concepts qui, eux, ont fait l'objet d'enquêtes philosophiques et historiques précises On pense le concept de territoire est un concept qui a été énormément étudié de par son lien avec la naissance de l'État moderne et de l'idée de souveraineté étatique. Le concept de lieu, c'est aussi un concept qui a été énormément étudié par rapport à son ancrage à l'expérience phénoménologique qu'on peut faire de la spatialité. Et souvent, on opposera d'ailleurs une expérience du lieu, du local, contre les forces aliénantes de la mondialisation, du global, et on va faire jouer ce concept contre celui de global. Et que donc il n'y avait pas à l'heure actuelle d'études similaires sur le concept de zone, alors même que ce terme s'inscrivait, je trouve, de manière de plus en plus prégnante, vraiment, et avec donc cette hypothèse qu'il y avait peut-être là quelque chose qui se jouait de notre contemporanéité et qui nécessitait donc de mener l'enquête.
J'aimerais qu'on parle d'abord de cet article qui est paru dans la revue Les Temps Modernes que tu as écrit, qui s'appelle « Qu'appelle-t-on zone à la recherche d'un concept manqué ?» parce qu'il fait bien justement ce travail de recherche lexicale et historique du mot « zone » dans lesquels ça te permet d'identifier l'absence de conceptualisation du terme « zone », ce dont tu viens de nous parler. Et alors on pourrait le qualifier, cette absence de conceptualisation, sous les termes de « flottant »,« équivoque », obscur, et tu identifies le fait qu'il est le plus souvent confondu avec le terme d'espace.
Alors, merci beaucoup déjà de faire référence à ce travail, enfin cet article qui date de 2017 hein, et qui est donc un article que j'ai publié à la charnière entre justement ce travail que j'avais mené au cours de mon master de philosophie et mon travail de thèse. Et quand je relis cet article, je me rends compte que en fait, mon travail de thèse n'a consisté qu'à dire la même chose en 400 pages. Bon, évidemment, avec quand même un cadre théorique beaucoup plus appuyé, des études de cas qui se multiplient et un argumentaire qui se précise. Mais en tout cas, ce qui est frappant par rapport au terme de zone, qui n'est peut-être pas le cas du terme de territoire ou de lieu, c'est que la zone elle-même, en fait, charrie une indétermination. Et donc, tout le problème, c'est comment déterminer quelque chose qui est précisément opère pour dans des contextes où c'est de l'indétermination dont il est question. Alors, c'est une question méthodologique, évidemment, et il ne faut pas tomber dans le piège de dire « bon, eh bien, l'infini est un concept que l'on ne peut pas définir », parce que ce serait croire que le concept est à l'image et est à sa propre image, et dans ce cas-là, on peut tomber dans des sortes de sophismes du style bah, « le concept de chien n'aboie pas ». Donc, l'indétermination de la zone ne doit pas nous empêcher d'en faire une enquête conceptuelle et d'essayer de le déterminer, ne serait-ce que par son détermination même. Donc, pour revenir à ce travail, donc ce travail de recherche lexicale, ce qui ressort, en fait, quand on étudie à la fois l'étymologie du terme de zone, qui donc vient du grec, qui veut dire la ceinture portée par les femmes, zonée, et qui rapidement désigne dans la cosmologie grecque antique les ceintures terrestres, c'est-à-dire les cinq bandes de la Terre qui sont déterminées par rapport à leur position au soleil. Donc on va parler de zone torride, de zone tempérée et de zone polaire. Mais donc ça, c'est disons, l'origine du terme. Si on regarde ensuite son évolution historique et jusqu'à ses usages contemporains, ce qui ressort de manière très frappante, c'est que le concept de zone est presque inévitablement un terme qui est complété par un adjectif qualificatif ou un complément du nom. On dira toujours zone torride, polaire, tempérée, ou zone industrielle, résidentielle, commerciale, ou zone orale, génitale, anale, etc. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est face à un essaim de zone qui ne fait pas définition ou face à un terme qui ne semble pas avoir de propriété commune, ou en tout cas qui a toujours besoin d'être qualifié. Et même quand le terme de zone intervient comme étant la zone, ce dont on se rend compte, c'est que, et donc, typiquement dans l'expression en français, de dire « c'est la zone », en fait, ce qu'on a oublié, c'est que cette expression, elle renvoie à une réalité historique et géographique spécifique, qui est la zone de Paris, qui entourait donc la capitale au XIXe siècle et qui était donc une bande de terre non constructible autour des fortifications où s'était réfugiée la population la plus marginalisée. Et donc, même là, on n'est pas face à la chose générale que le nom commun viendrait définir. Et dès que le terme « zone » est employé sans adjectif qualificatif ou sans complément du nom, eh bien, il évoque tout de suite l'indistinct, le vague, l'indéterminé, le mobile. Et donc, on peut rapidement se trouver face à cette difficulté-là. De réussir à déterminer un concept qui, justement, est soit relève de l'indétermination, soit, au contraire, relève de la surdétermination. Puisque si on appelle une zone zone industrielle, c'est qu'on est en train de la qualifier par un acte même de zonage, en fait. Le zonage sert à donner une spécification, à conférer une qualité à ce qui n'en a pas.
Oui, vraiment, c'est cette phrase qui est assez clé. Nous voilà donc face à un essaim de zone qui ne fait pas définition, effectivement. Et si bien que tu identifies que ce serait l'art, notamment la littérature et le cinéma, qui s'emparerait d'une pensée de la zone et qui rendrait sensible ses caractéristiques, donc l'indétermination, l'anarchisme, l'immobilité et la liminalité. Et donc, ça serait par l'art, notamment le cinéma, d'où la première partie de ta thèse qui porte sur une étude de Stalker de Tarkovsky et donc de cette fameuse zone dans laquelle le Stalker va emmener plusieurs protagonistes pour essayer de déambuler dedans jusqu'à atteindre cette fameuse, ce fameux endroit qui permet d'exaucer les souhaits, y compris ceux qui sont les plus incompris par les personnes qui vont s'installer dans cet endroit, on va dire en cœur de la zone. On ne sait pas si c'est le cœur ou pas, mais en tout cas, il y a un endroit dans la zone où on trouve ce lieu-là.
Alors, oui, effectivement. Si je peux revenir peut-être, avant d'entrer sur la question de Stalker plus spécifiquement, peut-être revenir sur un point de méthodologie, qui est qu'une fois qu'on a dit que le concept de zone, enfin qu'il y avait un essaim de zone qui ne faisait pas définition, on est face donc au problème de comment va-t-on déterminer ce concept de zone. Et là, on fait face à un essaim de zone qui ne fait pas définition. Et d'une part, il faut éviter en fait de s'enfermer dans une histoire du concept de zone. Parce que s'enfermer dans une histoire du concept de zone, ce serait soit d'une part chercher à trouver l'origine de ce concept, comme si cette origine pouvait en détenir l'essence. Et là, on tomberait dans un piège que j'appelle l'impasse du réalisme, et qu'on voit par exemple à l'œuvre dans le genre de démarche heideggerienne, par rapport au travail conceptuel. Mais faire une histoire de la zone, du terme de zone, risque également de tomber dans un autre piège qui est celui du nominalisme, c'est-à-dire de dissoudre le terme dans l'évolution contingente de ces changements de sens et qui nous fait ainsi perdre toute consistance du concept. Et donc, j'ai cherché à trouver une troisième alternative que j'appelle conceptualiste, c'est-à-dire qui, en fait, considère que le concept n'est ni une essence, qu'il n'y aurait pas quelque chose comme de la zone qui existe en dehors du concept et qu'il faudrait trouver le concept adéquat pour pouvoir correspondre à la réalité. Et parce que là, on est dans une conception très idéaliste du langage. Mais qui ne consisterait donc pas non plus, en fait, à une approche conceptualiste, en fait, considérait que les évolutions du terme de zone ne sont pas non plus des accidents de l'histoire. Et donc là, on cherche à éviter le piège nominaliste et à considérer que une approche conceptualiste doit pouvoir rendre compte à la fois de l'hétérogénéité de ce concept, de ses métamorphoses, et en même temps de sa consistance. Et qu'en fait, la consistance du concept, elle se situe dans ses transformations mêmes. Et donc, ce que j'ai cherché à faire dans mon travail de thèse, c'était donc de pouvoir étudier des champs extrêmement hétérogènes, là où le concept de zone était utilisé, pour pouvoir créer un espace comparatif qui, dans le passage d'une zone à l'autre, dans le passage d'un cas d'étude à un autre, pouvait donner consistance à ce concept. Donc il faut bien clarifier le fait que c'est moi qui fais de la zone un concept. C'est-à-dire que mon travail cherche à produire un concept de zone qui soit opératoire, qui soit capable de rendre compte des transformations et des métamorphoses de ce concept à travers ses opérations empiriques et logiques qu'il effectue dans un certain nombre de champs variés, distincts, hétérogènes.
Alors, avant de te réinterroger sur The Stalker de Tarkovsky, peut-être faudrait-il que tu parles des trois grandes parties de ta thèse, parce que ça va te permettre d'exemplifier tout ce que tu viens d'énoncer, qui est vraiment, vraiment important. Souvenons-nous donc de ce terme que tu emploies, alternative conceptualiste. Et donc, parle-nous de ces trois grandes parties de ta thèse qui vont nous permettre de mieux comprendre ce que ça signifie.
Alors, du coup, la méthode que j'ai proposée, que j'appelle conceptualiste, a été donc de proposer une analyse transversale des usages de la notion de zone, qui soit à la fois appuyée donc, sur un travail d'épistémologie historique, et de création conceptuelle. Et donc, cette analyse transversale, je la mène à travers trois champs qui est donc le cinéma, ou la science-fiction est en fait plus précisément un cas paradigmatique pour moi qui est Stalker de Tarkovsky. Ensuite, le deuxième champ que j'étudie, c'est la psychanalyse. Et donc la théorie des zones érogènes en psychanalyse, qui est donc en fait peut-être le domaine qui a le plus théorisé explicitement le concept de zone, et qui a été un sujet de nombreux débats et qui donc me permet en fait de resituer ce concept au sein d'une théorie pour en faire vraiment émerger les opérations. Et le troisième champ qui m'intéresse, c'est celui donc de la géographie, où là je traverse de très nombreux objets puisque je pars de la cosmologie grecque antique pour arriver à la question du zonage dans l'aménagement du territoire, de la création des zones spéciales économiques, mais aussi les zones d'autonomie temporaire, les ZAD, les zones critiques dans les sciences du système Terre, etc. Et donc, l'idée, comme je disais, c'est de ce que j'ai appelé, en fait, c'est une méthode que je nomme « zoner la zone », qui consiste à suivre donc ce terme de zone dans différents champs afin de donner consistance à ces composantes hétérogènes en travaillant sur la résonance entre ces champs. Donc, l'objectif, et là encore, précaution méthodologique, l'objectif n'est pas de dire qu'à chaque fois, ce qui se passe dans la science-fiction, c'est la même chose que ce qui se passe en psychanalyse, qui est la même chose que ce qui se passe en géographie, parce que ce serait ennuyeux, en un sens, de simplement répéter en permanence la même thèse, et qui, du coup, ne se ferait pas honneur à la spécificité de chacun de ces champs, y compris à la spécificité de leurs problèmes, de leurs objets et de leurs méthodes. Effectivement, il ne fallait pas produire une anthologie de la zone qui donc aurait répété les mêmes analyses pour chacun des cas rencontrés. Il fallait que dans le parcours, et c'est pour ça que je dis que l'intelligibilité de la zone, elle se situe dans sa transversalité, dans la manière dont je suis une trajectoire, c'est que l'intelligibilité du concept tel que je le construis se situe dans la manière dont chacun des champs va en fait résonner l'un avec l'autre, non pas parce qu'ils se ressemblent, non pas parce que c'est la même chose qui s'y joue, mais parce que l'on peut identifier des correspondances. Ce qui n'est pas la même chose que des ressemblances, c'est-à-dire identifier des opérations analogues entre elles. Toujours en restant donc à la surface et sans jamais essayer d'atteindre le ciel abstrait des concepts, enfin des idées platoniciennes. Toujours vraiment en gardant la zone là même où elle opère et fonctionne, c'est-à-dire là où elle, dans les champs qui sont soumis à l'analyse.
Alors parlons de Stalker et ton étude de Stalker de ce film de Tarkovsky. Parce que ça va nous.
Et nous aurons la réponse, longue réponse, puisqu'il reste encore à peu près une demi-heure d'interview, dès ce soir sur le site www.émissiondufictionnaire.com. C'est très bien référencé. Vous trouvez aussi 270 interviews de cette émission qui existe depuis 2004. C'était donc Jeanne Etlin à partir du concept de zone. Carl, pour terminer cette émission, tu as préparé un troisième vinyle.
Eh oui, tiens, on va quasiment pas finir en retard, c'est beau ça.
Nous sommes bons et à l'heure.
Je crois que le morceau tient là-dedans. C'est un extrait d'un album de Lucid Vox, ensemble de Moscou. Et on va écouter You Are, qui en russe doit être Tiest.
C'est russe donc ?
Je crois.
Ah, très bien.
Et ils viennent de Moscou.
Ah, parfait. Découvrons cet artiste-là. Et ainsi s'achève l'émission du Fictionnaire.